Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la viticulture et le climat.
L'Occitanie, c'est le vin. Le meilleur du monde. De Saint-Chinian à Forzaril, des Corbières aux Costières et de Gaillac à Collioure, nos vignes sont notre décor. Mais l'impact ravageur que peuvent avoir les changements climatiques sur le vin de nos fabuleux terroirs ne fait plus aucun doute. La viticulture est un secteur économique particulièrement touché. Le vin constitue un patrimoine culturel commun, construit dans le temps à travers des savoirs et des terres si diverses. On a tout intérêt à mieux protéger ce patrimoine unique au monde. C'est pourquoi nous vous proposons ce reportage dans les terres du Pic Saint-Loup. Victorine Fraisse, jeune vigneronne du domaine de Villeneuve, nous raconte l'impact du climat sur ses vignes et son travail.
Alors, le domaine de Villeneuve, c'est un domaine familial où on travaille avec mes parents, mon frère et aussi mon mari. On a 2 activités. Donc, la première, c'est la vigne. Donc, on a près de 60 hectares de vignes, principalement en Pic Saint-Loup, sur Claret et Valflonnès. Et en plus de ça, on a une activité d'apiculture. C'est mon père et mon mari qui s'en occupent et ils produisent une dizaine de miels différents du Pic Saint-Loup, mais aussi en déplaçant les ruches sur plusieurs départements. Donc on est sur à peu près 30 hectares à Claret et 30 sur Valflonnès. Donc on est sur une structure assez moyenne, je dirais. Pour l'appellation Pic Saint-Loup, c'est plutôt un domaine important. Nous, ça fait depuis les années 80 qu'on est vigneron indépendant. Et ça a permis qu'on s'installe, mon frère et moi, en même temps, grâce au nombre d'hectares qu'on avait. Donc nous, on a fait le choix de planter beaucoup de cépages. Donc au total, on a 18 cépages. Et en Pic Saint-Loup, c'est principalement la Syrah. Donc on a un encépagement plutôt rouge. On fait 85, voire 90 selon les années, 90% de rouge. Alors, comme on est sur des coteaux voilà, classés, bien exposés, nous, on est sur des rendements. En moyenne, on va être sur du 38 à l'hectare. 38 hectares. En Pic Saint-Loup, il faut savoir que la limite, c'est 45. Plus on va faire des plus petits rendements, et plus la qualité du raisin va être bonne et va faire des vins aromatiques. Quand on est sur une appellation, j'ai l'impression qu'on est moins touché par ces baisses de rendement. Parce qu'on se limite déjà au niveau réglementaire avec le cahier des charges Pic Saint-Loup qui est plus strict. C'est sûr que si on compare à il y a 50 ou 70 ans, on produisait beaucoup plus. Mais on ne faisait pas forcément aussi des vins d'aussi bonne qualité. Il y a eu un tournant qualitatif. Donc sur les vins AOP Pic Saint-Loup, je dirais qu'on est sur des récoltes avec des petits rendements. Mais ce n'est pas plus mal puisque c'est un peu ce qu'on voulait au départ. La vendange, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Moi, mon grand-père, à l'époque, c'était tout à la main. Tous les domaines faisaient venir des équipes. Et en fait, ça, on l'a gardé, nous, mais ça se fait de plus en plus rare. Donc, c'est la même famille qui vient d'Andalousie, qui, en fait, dans le village, ils sont 8 et ils viennent d'année en année. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir gardé cette tradition-là, en fait, où on faisait appel à... En fait, c'est des agriculteurs. Eux, là-bas, ils cultivent l'avocat, le citron. Ils ont des cultures différentes, mais ils ont l'habitude de travailler pour amasser les fruits. Donc, ils viennent, on les garde à peu près 3 semaines, 1 mois en fonction de la récolte. Et on peut vendanger donc toutes nos parcelles parce qu'elles n'ont pas toutes la même exposition et ça permet de faire une vendange à la main grâce à ces 8 vendangeurs. Et on a quelques vignes qu'on vendange à la machine aussi parce que ça permet, par exemple, sur des vins, un peu, des vignes un peu plus jeunes, je dirais, où on veut faire des vins plus légers, on peut passer à la machine. Après, c'est vrai que ça abîme un peu la vigne, donc on évite de le faire trop souvent. L'appellation, elle s'est construite au niveau géologique sur des éboulis calcaires. Donc les éboulis calcaires, c'est la caractéristique de tous les terroirs Pic-Saint-Loup. Donc c'est un découpage précis de parcelles où en fait on retrouve ce sol un peu plus calcaire avec des... Donc on est sur des sols un peu plus pauvres. C'est ça aussi qui permet de faire des plus petits rendements. Et on a en fait sélectionné ces parcelles pour justement implanter nos cépages de l'appellation Syrah, Grenache, Mourvèdre, éventuellement du Carignan, du Cinsault et d'autres cépages comme le Morastel ou la Counoise qui font aussi partie du cahier des charges. On remarque en fonction de l'année, par exemple, les années de forte sécheresse, ça va avoir tendance à concentrer les arômes parce que le raisin va être plus petit, il va y avoir en fait moins de jus finalement, donc ça peut changer un peu le goût, ça peut donner des vins un peu plus concentrés, mais c'est aussi nous, c'est ce qui nous plaît dans ce métier, c'est qu'il y a la richesse des millésimes. On va dire là c'était un millésime de sécheresse, par exemple 2017 il avait fait très sec, puis après on compare avec 2018, on se dit ah ben là c'est pas pareil, c'est un peu différent, et grâce à ça on va avoir vraiment des effets millésimes qui vont être intéressants à comparer. Ça va pas être le même vin tous les ans. On voit vraiment qu'il y a un côté artisanal qu'on ne retrouvera pas dans des produits industriels où en fait c'est la même recette, toujours pareil. C'est aussi, bon, quand on prend un aléa climatique, on est triste parce qu'on se dit on perd un potentiel, mais en même temps ça fait que chaque millésime est différent. Il faut le voir positivement aussi parce que si on voit les aléas comme quelque chose de néfaste tout le temps, je pense que ça va pas s'arranger. Et puis notre production, elle est à l'air libre, donc elle est exposée à plein de risques. Donc il faut savoir aussi prendre ce que la nature nous donne. Et quand c'est une année sèche, eh ben, ça fait des vins plus concentrés. Quand c'est une année avec un peu plus de pluie, comme l'année 2021, il y avait un été avec beaucoup de pluie. Alors que d'habitude, on n'a pas de pluie l'été quasiment. On a les premières pluies après le 15 août souvent. Mais là, il y avait eu des pluies. Même l'herbe était restée en juin, presque en juillet. Et on s'était dit, c'est une année vraiment pluvieuse. Et dans les vins, voilà, on pourra l'expliquer, dire ben, cette année-là, c'est un peu différent. Il y avait plus de pluie. Et puis 2017, ça va être plus sec. C'est un peu la richesse du vin. Ça permet, en fait, on en parlait, on disait, si c'est pour travailler et que ce soit toujours pareil, en fait, c'est monotone. Et c'est pas du tout un métier monotone. Donc, je pense que... Il faut le prendre comme ça. Au début, quand on arrivait avec mon frère, quand on a vu le gel après la grêle, c'est vrai que les premiers jours sont un peu plus difficiles à encaisser. Mais après, on se dit, bon, faisons avec ce qu'on a et de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Et on fait des changements. Par exemple, c'est vrai que pour le gel, on le faisait déjà. En fait, on a des vignes sur 3 îlots culturaux. Donc, on a Claré, on a plutôt le côté du côté Hortus de Valflonnès. Donc là, on est sur vraiment les éboulis en dessous de l'Hortus et du Pic-Saint-Loup. Et ensuite, on a aussi des vignes du côté Valcire-Lancire, plus au sud. Et c'est une zone un peu plus gélive, donc on taille plus tard. Donc déjà, mes parents, mon grand-père disaient il faut tailler plus tard à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'en 2021, quand il y a eu le gel, on n'avait pas encore taillé. Et ça nous a permis de sauver ces parcelles-là. Parce qu'en fait, le gel est passé, c'est descendu jusqu'à -5. Et si si on avait taillé, on aurait pu perdre pas mal de bourgeons. Disons qu'on a des techniques que les anciens connaissaient, mais on est obligé de bien les appliquer. Et pareil, dès qu'on a des sécheresses, il faut faire attention. On dit que quand il fait trop chaud, il ne faut pas passer dans la vigne. Donc ça, c'est des choses. Des fois, il y en a qui ont oublié qu'il ne fallait pas passer dans la vigne ces jours-là. Et ben, quand ils sont passés, et ben, c'est pas bon, quoi. Après, pour la grêle, là, c'est là où on est le plus impuissant parce que il n'y a pas de filet, on n'est pas sur de l'arboriculture, donc la grêle, c'est, je dirais, le plus grand risque pour nous parce que ça tombe et en 5 minutes, là, ça fait des dégâts. Mais après, il y a aussi, là, on est en train de voir, après la grêle, on retaille, on va tailler donc là cet hiver et on se dit, il va falloir tailler tout le bois qui a été abîmé. Donc on va tailler peut-être un peu plus court pour justement permettre à la vigne de se reformer. Et donc c'est un investissement aussi en temps parce que plus on taille court et plus la vigne va mettre de temps à se développer alors qu'elle avait déjà produit du bois, elle s'était bien développée. Donc c'est un peu aussi la patience. Tout se fait pas en un jour, donc des fois il faut accepter de repartir un peu au départ pour tailler un peu plus court. Et il y a une réforme sur les assurances climatiques. Donc nous, en fait, on était assurés que pour la grêle, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment le plus gros risque ici, en Pic-Saint-Loup. Ça arrive pas souvent, disons. Ma mère, elle s'est installée dans les années 2000, elle en a eu en 2016 et en 2022. Donc on peut dire que c'est pas très récurrent, mais quand même, on s'était assuré à la parcelle. Donc c'est une assurance qui est minime, mais qui est quand même... disons, ça permet de rembourser quelques frais. Mais là, l'État voudrait faire une sorte de solidarité nationale, mais il faudrait s'assurer multirisque. Donc c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, il faut voir combien ça va nous coûter, mais l'État serait prêt à mettre en place ce système où au final on pourrait s'assurer une partie et l'État prendrait le reste. Bon, je pense qu'ils font ça plutôt pour l'avenir. Quand je fais déguster les vins, on me dit, est-ce qu'il va se garder? Alors, en fait, ce qui va permettre la garde, c'est l'acidité, en fait. Plus le vin va avoir une bonne acidité, ça va permettre qu'il se conserve plus longtemps. Donc, ça dépend, je dirais. Si on a un vin qui est d'une année de sécheresse, mais qui n'a pas d'acidité, alors il ne va pas trop se garder. Mais il y a eu des années où on avait un vin très concentré, mais avec une bonne acidité. Surtout qu'en Pic-Saint-Loup, on a quand même une certaine fraîcheur du fait du climat qui est influencé un petit peu par les Cévennes au nord et la Méditerranée au sud. Donc on a cette fraîcheur qu'on peut retrouver et qui peut permettre de garder les vins plus longtemps. Là, pour l'instant, j'ai des vins d'années de sécheresse qui se dégustent encore bien. J'avais goûté le 2017 quand même, il a encore 5 ans, il se déguste super bien, donc je pense qu'il peut se garder. Le truc avec les vins, des fois quand l'année est plus fraîche, sur les premières années, il va être, disons, peut-être moins intense, et après, en le conservant, vous allez voir qu'il va avoir une bonne garde. Donc je dirais que ça dépend. Il faut voir aussi, voilà, de garder des bonnes acidités. Ça, c'est pas possible partout, sur tous les terroirs. Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve important, c'est le rapport entre l'intensité du vin et quand même qu'il reste frais. Voilà, en Pic-Saint-Loup, on a des vins qui sont pas lourds. On essaye d'avoir toujours, voilà, ce côté frais dans la mesure du possible. Après, la nature nous donne ce qu'elle peut. Hein. Alors, la vinification au niveau intrant, bon, il y a le sujet des sulfites, forcément. Donc ça, on en met le moins possible. C'est vrai que j'écoutais là un journaliste qui disait ça a été divisé par 10, les sulfites et tous les intrants. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un gros travail. Et même nous, on essaye au maximum de réduire. Mais ça reste quand même nécessaire de mettre une petite dose de sulfite si on veut pas avoir un vin, disons, qui peut à risque, hein, qui peut dévier. Parce qu'au final, quand on ne met pas de sulfite, c'est comme tout, ça va tourner au vinaigre, en fait, c'est naturel. Donc il y a certains vins nature, mais il faut les boire très vite. Donc là, on avait un projet de faire un vin sans sulfite, mais il va falloir que je vois d'avoir assez de clients qui sont intéressés pour pouvoir le vendre et le boire dans l'année, parce que ça se conserve... Enfin, ça peut se conserver plus d'un an, mais on a des risques de dire la bouteille n'est pas stable. Donc nous, pour l'instant, on a décidé de conserver quand même un petit niveau de sulfite. Il faut savoir que c'est vraiment minime, hein. Des fois, il y aura plus de sulfite dans des frites industrielles ou dans du vinaigre. Ou... En fait, il y en a partout, des sulfites. C'est un conservateur qui a été utilisé depuis de nombreuses années. Ça crée le débat parce que on se dit que c'est les conservateurs, c'est pas forcément le mieux. Mais pour le vin, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant que ça. Mais après, au niveau donc de la cave, nous, ce qu'on fait, c'est le maximum de travail à la main. Donc, on ramasse beaucoup en grappe entière, comme je disais, avec les vendangeurs. Et ça, après, en cave, on fait des vinifications, des macérations grappe entière. Ça nous permet d'avoir plus d'aromatiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et aussi, on aime bien aussi conserver le savoir-faire de l'élevage en barrique. C'est vrai qu'on en parle moins parce que, je sais, les goûts, c'est... Des fois, on me dit « j'aime pas la barrique ». Bon, ça peut être mal perçu, mais au final, quand on veut construire des vins plus complexes, c'est, à mon avis, la meilleure manière d'utiliser voilà, des barriques françaises et de faire un élevage long. On va apporter une plus-value à son vin. Et je trouve que c'est un peu, disons, discrédité en ce moment parce que les gens ont peur que ces goûts boient, alors qu'en fait, si c'est bien intégré... C'est très bon. En fait, il faut bien doser. Il faut doser l'élevage. En fait, par exemple, 2021, quand le temps était plus humide, on a décidé, par exemple, de faire un élevage légèrement plus court en barrique pour justement que le niveau d'intensité de maturité du vin soit à l'égal de l'élevage. Donc, par exemple, sur notre Viognier, on a décidé, au lieu de faire un an, on a fait à peu près un peu moins de 10 mois. Et en réduisant de quelques mois, on a un vin où l'élevage est un peu plus fondu. Et c'est vrai qu'en fonction de l'année, voilà, on peut faire 10 mois, 12, on va jusqu'à 24 mois sur certaines cuvées. Et je trouve que c'est ça la richesse aussi, c'est de déguster, de dire là c'est prêt, là c'est pas prêt. Et en fonction du millésime, c'est vrai que ça peut varier un petit peu de profil. Oui, parce que si le vin est une année de sécheresse, il va être plus intense et peut-être il va falloir plus de temps en cave pour qu'il se marie bien avec l'élevage barrique, hein, par exemple. Que du chêne et du chêne français. C'est vrai que ça, c'est, on n'en parle pas assez non plus parce que le chêne, on peut avoir des barriques de chêne, mais des pays de l'Est, on peut avoir du chêne, même en France, on a plusieurs régions de production, on peut avoir du chêne de Gascogne ou alors du chêne de Troncé, d'Allier. Nous, on est plutôt côté Troncé-Allier. C'est vrai que c'est des barriques, c'est des forêts qui sont gérées donc par les tonneliers en fait, qui ont un droit sur ces arbres et qui replantent aussi pour avoir une gestion durable des forêts. Mais c'est vrai que là, ça a pas mal augmenté. Je pense que tout augmente, mais les barriques aussi, parce qu'on se rend compte que c'est rare, en fait, le bois. C'est un bien précieux aussi. Et c'est vrai, comme on a le vin et le miel, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent ici pour déguster, apprendre un peu plus sur nos métiers, parce que finalement, c'est deux métiers qui sont différents, mais on peut trouver aussi des similitudes, parce que sur les miels aussi, il y a un côté terroir. Une année où, l'année où il y a eu le gel, eh ben les acacias, ils ont gelé. Il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas pu faire beaucoup de miel d'acacia cette année-là. Donc chaque année, là par exemple avec la sécheresse, ben, les fleurs elles se flétrissent et puis on ne peut plus faire de miel. Donc on a l'effet des millésimes aussi sur les miels, parce qu'en fonction d'une année... Moi je dis toujours, chaque année il est différent le miel, il a un petit goût différent en fonction du climat, en fonction de la quantité aussi, parce qu'on ne récolte pas toujours la même quantité sur, par exemple la miellet de châtaignier, il y a des bonnes années, des mauvaises années où on va récolter très peu. Donc ça j'essaie de l'expliquer aussi et ça permet de parler un peu du métier sous les deux aspects, parce qu'aussi on a des clients. Des familles en fait qui peuvent venir aussi pour le vin et puis aussi faire goûter les miels aux enfants. Donc ça, on fait des dégustations toute la semaine du lundi au samedi et on propose aussi sur réservation aussi un petit accompagnement avec des mets locaux. Alors je propose du pélardon forcément et puis quelques tapenades, olives. C'est vrai qu'on a déjà la chance d'être sur un terroir réputé. Donc ça nous apporte aussi beaucoup de clientèle. Et puis nous, depuis les années 80, on a notre caveau qui est ouvert. Donc on a des gens qui viennent des fois depuis une vingtaine d'années. Donc on a une clientèle assez fidèle, mais qui se renouvelle quand ils font la route des vins, voilà, c'est intéressant de s'arrêter en Pic-Saint-Loup et chaque domaine est différent aussi, donc...
Christelle Combaluzier, responsable de la cave et du restaurant Invinatera à la Maison des Saveurs et du Vin, nous parle de l'impact du climat sur sa cave.
Donc nous, la Maison des Vins Invinatera est basée à Sauterargue, juste en limite du Gard, des terres gardoises. Nous avons ouvert notre Maison des Vins en novembre 2018. Et nous avons la spécificité de regrouper sur les 73 domaines que compte l'appellation Pic-Saint-Loup, 66-67 domaines, tout à prix caveau sur plus de 250 références. Alors effectivement, nous avons à cœur de mettre les valeurs du territoire en avant, c'est pour ça qu'on est vraiment spécialisé dans les vins du Pic-Saint-Loup, mais nous avons quelques références incontournables du territoire national, comme des côtes rôties, du Condrieu, une belle gamme de champagne, mais aussi de l'Alsace, des belles choses qui sont vraiment complémentaires avec les vins de l'AOP Pic-Saint-Loup. Le label bio est vraiment un label très intéressant et important. Nous sommes en 2022 et aujourd'hui, qui n'est pas, ne prône pas le bio au quotidien, voilà. Il y a vraiment un effort depuis qu'on a ouvert la boutique. Moi, je vois, fin 2018, il y a presque la majorité des domaines qui sont engagés dans une démarche. Alors certes, qu'elle soit bio ou qu'elle soit HVE, mais personne n'est insensible à ces démarches-là. Et il y en a beaucoup de vignerons qui sont même en troisième année de conversion. Donc il y a vraiment le pli est pris, le bon pli est pris, pour passer et avoir l'appellation bio comme valeur importante de promotion et de production des produits. C'est-à-dire que la labellisation bio implique que tous les produits... Alors déjà, il y a un point important. Le bio ne veut pas dire sans traitement. Ça, c'est déjà un point important qu'il faut aborder, parce qu'il y a souvent de l'amalgame qui est fait. Le bio veut dire aucun produit d'origine synthétique, alors que des produits d'origine animale ou naturelle sont utilisés dans le bio. Et c'est important de le préciser. Ensuite, il y a la démarche HVE qui a un autre cahier des charges. Et puis il y a la démarche, ce qu'on appelle Déméter. Pour moi, j'ai tendance à dire que le Déméter, c'est le bio plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être Déméter sans être bio, mais on peut être bio sans être Déméter. Déméter, ça veut dire que le vigneron, et nous en avons 5 ou 6 parmi les 73 domaines du Pic, le vigneron et ses équipes vont utiliser les insectes, les tisanes pour traiter les vignes soit en préventif, soit en traitement par la suite. Donc cet été 2022 a mis à rude épreuve la clientèle qui est passée nous voir. Et c'est pour ça que nous avions anticipé en rentrant des cuvées qui n'étaient pas... Donc nous, on est spécialisés dans les vins du Pic Saint-Loup, mais les vignerons ne font pas que du vin en appellation Pic Saint-Loup. Ils font aussi des vins qui sont en appellation Vins de France ou IGP et qui nécessitent pas minimum 50% de Syrah. Donc c'est pour ça que nous avions rentré des cuvées avec une base de Cinsault, de Carignan, des vins beaucoup plus souples, beaucoup plus légers, à boire frais comme un rosé, mais qui étaient du rouge quand même. Et c'est vrai qu'ils ont été fort plébiscités cet été, parce que nos vins et les vins du Pic Saint-Loup, même si on voit depuis quelques années une grosse évolution au niveau de l'élevage de la part des vignerons pour arriver à produire des vins beaucoup plus souples, beaucoup plus légers sur le fruit et le croquant, il n'empêche que l'appellation Pic Saint-Loup, avec sa base de Syrah, de Grenache et de Mourvèdre, apporte la puissance au nez et en bouche. Donc, certains vignerons ont souhaité donner une autre impulsion et proposer d'autres choses qui sont plus sur les périodes estivales, en adéquation avec les attentes de la clientèle, et partir sur des cépages plus légers. De toute manière, le métier de vigneron est un métier en constante évolution, et un vigneron est complètement lié aux aléas et aux changements climatiques, tant par les choses excellentes que le climat peut nous donner, comme les choses très compliquées que le climat sait nous reprendre. Il y a une grosse clientèle aujourd'hui, les gens veulent du bio, le demandent de plus en plus, donc c'est important. Mais il y a aussi des gens qui, certes, veulent du bio, et puis certains qui veulent... Si le vin est bio, c'est bien, mais ils veulent surtout du bon. Oui, l'onotourisme est vraiment important sur le Pic Saint-Loup. L'office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup fait un travail remarquable en mettant l'onotourisme au centre des communications et met en avant vraiment les domaines et les activités onotouristiques en avant. Il y a un label qui s'appelle le label Tourisme Vignoble et Découverte où un certain nombre d'acteurs sont engagés, on en fait partie. Beaucoup de personnes partent de moins en moins à l'étranger et veulent se rapprocher et découvrir les spécificités des territoires. Donc, est-ce que c'est lié à la suite de l'effet Covid ou l'effet climat en ne prenant pas l'avion pour partir loin et en voulant rester sur le local? Je vous laisse réfléchir à cet aspect-là.
Valette Pascal, directeur de l'Office du tourisme du Pic Saint-Loup, nous raconte l'impact du climat sur le tourisme et sur les vignerons du Pic Saint-Loup.
Sur le plan massif Pic Saint-Loup, qui est en plan de prévention de risque incendie feu de forêt, là c'est pareil, le paysage il va évoluer au gré malheureusement des incendies qu'on peut avoir. Il y a 5 ans, 6 ans maintenant, On a vu un incendie qui avait ravagé tout le secteur sud du Pic-Saint-Loup, hein, sur le côté, ben justement, tout le secteur de Guzargues, Saint-Bosile-de-Montmel et Sainte-Croix. Donc là, on a forcément des impacts derrière, hein. C'était des zones très boisées. Maintenant, c'est une zone, on va dire, avec des petits buissons un petit peu partout. Et on a ce secteur de garrigue, hein, puisque faut savoir que nous sommes sur un secteur de garrigue. Ben, la garrigue, elle est habituée à la chaleur, mais elle est habituée à la chaleur comme tous les climats méditerranéens, avec des périodes où il fait très chaud et des périodes où il fait froid. Et ces périodes où il fait froid, ben voilà, hein, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, on est censé normalement avoir un petit peu plus frais avec un peu de pluie, ben on a moins de pluie forcément, donc moins d'eau, donc un impact sur les paysages, hein, regardez un petit peu dehors, c'est quand même assez sec, même si on n'est pas une des régions de France les plus touchées, puisqu'on a quand même encore un petit peu dans les nappes phréatiques, mais voilà. Forcément, par rapport à ça, on va avoir une évolution des paysages, oui. Alors, après, si vous voulez, ça rejoint toutes les notions de tourisme durable, hein. Il va falloir forcément prendre en compte ce réchauffement, tout simplement parce que ben, les paysages, derrière, ils sont liés aussi à une activité touristique. Voilà. Et la grande question que se posent tous les offices du tourisme français de Navarre actuellement, qui a été relevé notamment lors des universités du tourisme durable il y a quelques semaines, rupture ou transition par rapport aux formes de tourisme actuelles. Voilà. Donc, impact sur les paysages, forcément. La rupture 2019, la Covid. 97% de notre fréquentation, sont des gens de la région, grande région. Alors, quand je dis grande région, grosso modo, Toulouse, Lyon, Marseille, et week-end et vacances en local. Voilà, c'est-à-dire grosso modo les Cévennes, Nîmes, et on descend à peu près jusqu'à Narbonne. Voilà, là, oui. Première demande dans nos deux bureaux d'information touristique, les activités de pleine nature et surtout la balade et la randonnée. Je fais la différence, hein, balade, nous on appelle ça balade, ce sont des circuits qu'on peut faire en famille, hein, en toute dilettante. Et randonnée, on est déjà sur une partie sportive, notamment avec les boucles de notre GR de pays. C'est tout le temps lié au risque. Voilà pourquoi le Pic Saint-Loup a été fermé. Alors, ça a été fait de manière un petit peu maladroite, parce que si vous voulez, entre les fermetures administratives, le retour sur les communes, surtout sur les petites communes, nous, c'était Cazevieille, hein, pour la montée au Pic Saint-Loup, qui est une petite commune qui a peu de moyens. Il a fallu qu'il gère ses interdictions, avec des gens qui sont plus ou moins respectueux des règlements. Alors, vous en avez qui comprennent et vous en avez qui passent outre. Sauf que derrière, lorsque vous mettez une interdiction, ben, malheureusement, il faut pouvoir faire respecter cette interdiction. En sachant que la montée au Pic-Saint-Loup, c'est une véritable passoire. Vous avez la montée officielle qui est à partir de Cazevieille, mais on peut venir du nord, de Saint-Martin, on peut venir de Saint-Mathieu-de-Tréviers, voilà. Donc c'était plus alors c'est une interdiction totalement liée au risque d'incendie de feu de forêt. Voilà. Effectivement, sur le massif du Pic-Saint-Loup, il y a un feu qui part, ça serait une catastrophe, parce que là, ça s'embrase, ça ne sera pas 10 hectares, quoi. Voilà. Alors, il sera enseigné en amont, mais le problème, si vous voulez, c'est que quand vous êtes en vacances, vous prenez toujours peut-être pas la peine de lire le Midi Libre, de regarder les informations régionales. Alors, nous, on a balancé sur les réseaux sociaux, la préfecture a fait pareil, on a mis des écriteaux partout, mais vous aussi, vous êtes parti en vacances, il y a des moments, ben, on est en vacances, voilà. Ah, si on montait au Pic-Saint-Loup, vous arrivez, vous avez une barrière avec un petit bout de papier collé, signé du préfet avec arrêté du maire. C'est pas toujours top. Alors nous, on a essayé de faire une information autour de ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir beaucoup plus anticiper l'année prochaine et sur toutes les saisons estivales à venir, il va falloir nous qu'on se renouvelle et qu'on arrive à proposer autre chose que nos classiques. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est actuellement dans ce constat et rupture ou transition. Nous, actuellement, on s'appelle Grand Pic Saint-Loup Tourisme, la communauté de communes s'appelle Grand Pic Saint-Loup. On a le Pic Saint-Loup qui est en plein milieu et qui est la chose la plus demandée en matière de randonnée. Notre AOP s'appelle Pic Saint-Loup et on communique sur le Pic Saint-Loup, une autre idée du voyage. Grosso modo, on a le Pic Saint-Loup, venez chez nous, c'est génial. Mais ne montez pas au Pic Saint-Loup. Donc, si vous voulez, sans tomber dans la schizophrénie, il va falloir au bout d'un moment qu'on arrive à trouver de nouvelles formes. Alors, on est en train de le faire, hein, ça se développe énormément, hein. Voilà, on a beaucoup de professionnels qui prennent tout ça en compte. On a une surfréquentation sur le secteur du Pic Saint-Loup, mais on n'a pas une surfréquentation sur la totalité du territoire. Donc, il va falloir apprendre à mieux répartir les choses et à travailler de manière différente. Ça a été un constat global de tous les offices du tourisme d'Occitanie. Voilà. Alors, c'est un peu à bâton rompu parce que si vous voulez, là, vous touchez à une problématique qui nous tombe un petit peu sur le coin du nez et qui dépasse largement le tourisme, enfin l'économie touristique. Hein, ça touche à tout. Voilà. Et oui, la vigne, qu'est-ce qu'elle va devenir, la vigne, quand vous allez avoir 40 degrés? Alors, est-ce qu'on arrose, on n'arrose pas? Voilà, comment on va gérer quand vous allez avoir des degrés de sucre qui vont de plus en plus augmenter? Voilà. On plante de la vigne dans le sud de l'Angleterre en ce moment. Oui, parce que on se dit dans 10 ans, si ça continue comme ça, ben on aura un climat qui va forcément évoluer avec ces périodes de forte chaleur. Là, actuellement, franchement, ce qui se passe, c'est pas serre. Hein. On a des moustiques de partout. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué, un petit peu compliqué à gérer. Ouais.
Clément Nadal, jeune vigneron depuis moins de 2 ans au Château Boissé, va nous parler des impacts, des défis et des contraintes qu'imposent ces nouveaux changements climatiques sur sa production.
Château Boissé, on est vigneron et viticulteur et de nouveau vigneron depuis 7 générations. Donc ça a commencé il y a un paquet de temps avec le premier achat des vignes sur Malflonnes. On a été en cave particulière, donc on vinifiait nous-mêmes la récolte. On a fait 40 ans en cave coopérative et ça fait maintenant 8 ans qu'on est de nouveau en cave particulière, donc on vinifie l'ensemble de la récolte. On a à l'heure actuelle 50 hectares de vignes qu'on exploite et qu'on vinifie. On est du coup dans une démarche un peu de renouveau puisque ça fait 1 an et demi que je suis sur l'exploitation et j'essaye de prendre conscience de tous les enjeux actuels au niveau de la culture, de l'agriculture et de l'économie aussi malheureusement. Enfin des contraintes qu'il faut quand même qu'on arrive à produire pour vivre. Donc actuellement le domaine il en est là et on s'en sort bien. Au Château Boissé, du coup, on a la moitié des vignes qui sont en AOP Pic Saint-Loup, donc 50% du vignoble. Donc forcément, sur ces 50% de Pic Saint-Loup, on a 50% de Syrah, parce que c'est le cahier des charges qui le veut. Donc on a en gros un quart du domaine qui est cultivé en Syrah. Sur le second cépage qu'on est, on a 3 seconds cépages qui sont à équivalence entre 5 et 10 hectares, qui sont le Grenache, le Mourvèdre et le Cabernet Sauvignon. Et ensuite, on a des cépages qui sont un peu plus... qui sont locaux aussi, mais qui sont un peu plus anecdotiques en termes de superficie, comme le Carignan, du Petit Verdot, on a de la Roussanne, de la Marsanne, du Vermentino. Donc c'est quand même assez hétérogène. Donc c'est pas fameux cette année. Les rendements hectares, cette année on est sur une moyenne de 40 hectolitres hectares. Donc ce qui est même pas le plafond dans la AOC Pic Saint-Loup, c'est que le plafond dans la AOC Pic Saint-Loup est à 45 hectares. 45 hectolitres hectares et sur les IGP on est à 70 90, je sais plus, mais au climat, ouais. En grande partie qu'on a manqué d'eau pendant toute la période végétative de la vigne, donc à partir du moment où ça a commencé à partir du moment de la floraison jusqu'à la récolte ou un peu avant la récolte, on a beaucoup beaucoup manqué d'eau avec des fortes chaleurs, donc la vigne a été fortement stressée, beaucoup trop d'ailleurs. C'est-à-dire que quand elle stresse, elle arrête de vivre en fait, elle arrête de respirer, puisqu'elle n'a pas d'eau pour vivre, donc forcément elle se protège comme ça. On a eu aussi plusieurs épisodes de grêle, dont un gros le 19 ou 29 juin, je me souviens plus. Voilà, et le climat qui nous a un peu saqué la récolte cette année. Alors sur les sols, on a des sols assez diverses, vous en doutez, puisque déjà il y a beaucoup de diversité au sein du Pic Saint-Loup, et en plus on n'a pas que des vignes en Pic Saint-Loup. Donc ça a fait des champs encore plus larges. On a des terres de défriche qui sont très calcaires, qui sont du coup sous les éboulis, qui sont assez pauvres. On a aussi des marnes qui sont plus profondes. On a des sols qui sont profonds ouais, pour les IGP. C'est assez hétérogène. Et on a aussi des pics Saint-Loup avec quand même de la terre, donc des réserves hydriques qui sont relativement importantes, qui nous permettent de sur des années comme ça de faire un peu de raisin quand même. Puis chaque parcelle est très spécifique en fonction aussi non seulement de la terre, du coup vous l'avez soulevé, mais du porte-greffe et du cépage qui sont implantés dessus, de ce qu'on va demander comme raisin à cette vigne. Du coup c'est assez complexe et ça se réfléchit à la parcelle, quoi. Des impacts climatiques sur le sol, à part des gros coups de chaud qui
Ouais.
peuvent un peu stopper la vie microbienne du sol, ou du moins la ralentir, j'en vois pas vraiment là de tête qui influerait directement sur le sol. Par contre sur la vigne, ben oui forcément la sécheresse, la grêle qui va couper la récolte, couper les feuilles. Le gel, mais bon ça c'est beaucoup plus précoce, puis on l'a pas subi cette année. C'était l'an dernier ça. Ça suffit. Là oui, il y a des aides qui ont été mises en place. Notamment quand il y a eu des gros gels ou des grosses calamités agricoles. Oui, c'est ça, c'est calamité agricole, je crois le terme. Du coup, ça peut être sur la sécheresse ou sur le gel l'an dernier. Et en plus de ça, nous, on est assurés. Donc, assurés à risque climatique. Ce qui nous permet de maintenir une petite rentrée d'argent. Mais bon, comparé à ce qu'on perd, c'est pas. Mais surtout qu'on a toujours été des zones où il y a eu des grandes périodes de sec. Sécheresse estivale, c'est quand même. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas depuis le réchauffement climatique. Hein. Puis aussi des endroits sur lesquels on aime bien avoir un peu de sécheresse. Donc perdre un peu de récolte pour avoir un peu plus de qualité. Donc c'est vrai que quantifier les pertes par rapport à la sécheresse, je sais pas trop comment le faire. Maintenant, quand il y a une sécheresse sur 3 mois ou 3 mois et demi, comme ce qu'on a eu cet été, on a peut-être eu maximum 10 mm d'eau, quoi. Ce qui est vraiment un c'est que dalle. Bah, là, on sait qu'il y a de la perte, bon, pour la quantifier. En plus, il y a eu la grêle au milieu. Donc, voilà. Il y a des choses qu'on change par rapport aux fortes chaleurs, par rapport aux sécheresses. Et à la grêle, ouais, c'est principalement sur la conduite de la vigne. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir plus de feuilles au niveau des grappes pour donner de l'ombre aux grappes. Ça limite les températures des grappes, ça va éviter que les baies réduisent trop, perdent trop d'eau. Ça va éviter les coups de soleil, parce que les grappes peuvent avoir des coups de soleil, ce qui va les fissurer, et après il y aura des champignons qui vont s'installer. Ça c'est très nocif pour la récolte aussi, enfin très nuisible à la récolte. Ensuite, au niveau de la gestion de l'herbe, est-ce qu'il faut de l'herbe, est-ce qu'il faut pas de l'herbe, est-ce qu'il faut couvrir son sol pour le protéger du soleil, ou est-ce qu'il faut labourer pour conserver son eau? Là, il y a beaucoup de débats. Moi, j'ai essayé différentes méthodes. J'ai pas trop eu de conclusion. C'est-à-dire que j'ai vu des impacts sur la récolte. Mais de là à savoir réellement ce qui se passe dans le sol et quels sont les tenants et les aboutissants de la chose, c'est un peu plus compliqué, surtout à mon âge. Notamment de l'innovation et des nouveaux matériels agricoles qui permettent de couvrir les sols par paillage, par exemple. Ou alors pour ceux qui font des semis ou quoi, une bonne biomasse dans l'interrang, donc entre les rangs de vignes, qui vont avoir des broyeurs qui va prendre l'herbe au milieu et faire un paillage sous le rang de vignes pour éviter que les mauvaises herbes pas poussent. Il y a pas mal d'innovations de ce côté-là. De la recherche, il y en a eu beaucoup, maintenant je sais pas s'il y en a toujours autant, puisque il y a toujours des choses à chercher. Parcelle, ouais, j'ai une parcelle qui est très très sensible à la sécheresse. C'est une défriche de Mourvèdre qui est sur des sols très peu profonds. C'est-à-dire que la roche-mère pas très loin de la surface. Donc il n'y a pas beaucoup de réserves d'eau disponibles pour la plante. Puisque plus le sol est profond, plus les racines peuvent descendre. Et si la roche-mère est assez proche de la surface, ben, les racines ne descendent pas, elles n'ont pas trop d'eau à puiser. Et ça, on l'a très bien vu, parce que c'était une vigne pendant longtemps, on pensait qu'elle était juste très pauvre et qu'elle n'arrivait pas à pousser. Et en 2018 et 2020, il y a eu des printemps très pluvieux, et aussi jusqu'à le milieu de l'été des fois. Et donc là, on a vu en fait que la vigne avait du potentiel et qu'il lui manquait juste un peu d'eau pour exploiter toutes ses capacités. Mais on a un forage déjà sur cette parcelle qui n'est pas exploité à l'heure actuelle. On va réfléchir pour mettre en place de l'irrigation, sûrement au goutte à goutte, puisqu'on n'a pas un débit suffisant pour faire autre chose. Puis en termes d'économie d'eau, c'est quand même le plus viable, même si agronomiquement parlant, c'est pas le mieux. C'est-à-dire que j'ai les convictions qui sont là. On est passé HVE depuis 2 ans. Moi, j'ai envie de le faire. Après, au niveau du coût de production, de la valorisation des produits, des risques potentiels qui s'ajoutent, que ce soit surtout pour les maladies fongiques ou alors les virus qui se promènent dans nos petites vignes, c'est pas pour l'an prochain. L'an dernier, je disais c'était pour cette année, et puis là, j'ai un peu plus pris conscience. N'y a pas tant de difficultés que ça, c'est une charge de travail supplémentaire. Et le truc, il est là. Puis ça fait uniquement 1 an et demi que je suis sur l'exploitation, donc que je prenne mes marques, que je me rôde un peu, ça serait pas plus mal. Mais au niveau du raisonnement et de l'application des produits, du travail du sol, etc., j'essaie d'y coller le plus possible, puisque c'est ce que j'ai envie de faire. Même dans notre vignoble, il y a des vignes sur lesquelles on peut investir beaucoup de temps et d'énergie, parce qu'on a bon espoir et puis on sait qu'elles ont les capacités. Il y en a d'autres sur lesquelles on a moins envie, parce que moi, il y en a, depuis que je suis gamin, je les trouve pas belles et j'ai pas envie de les travailler. Enfin, j'y vais, je les travaille comme il faut, mais dans le sens que on peut pas arriver sur une exploitation et travailler 50 hectares de vignes, tout bien, tout nickel d'un coup. Du coup, je suis obligé de prioriser certaines parcelles plutôt que d'autres. On est, je dirais, pas obligé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des. Beaucoup, pas beaucoup de gens qui font des vinifications sans intrants. Maintenant, là, pour ces volumes-là, puis vu les marchés qu'on a à nous, qui sont quand même d'avoir des produits propres, droits, et avec une bonne durée, une bonne espérance de vie dans le temps, on est obligé d'avoir des intrants, et à la vigne, c'est pareil. Il y a des intrants phytopharmaceutiques, phytosanitaires, pour protéger la plante. Et ceux qui en font pas, ben, ils font pas de récolte, quoi. Ça va être un antioxydant, un bactéricide. Enfin, ça va protéger le vin des défiations microbiologiques. Ça va protéger le vin de l'oxygène. Et donc, c'est ce qui permet de conserver le vin pendant plus longtemps. C'est l'intrant qui fait le plus de bruit, parce que c'est celui qui donne mal à la tête. Maintenant, des sulfites, il y en a de partout. Il y en a dans les yaourts, dans la charcuterie, il y en a de partout. Vraiment, on se rend pas compte. Sauf que dans le vin, vous avez plus tendance à prendre une cuite au vin et avoir mal à la tête, alors que du jambon et du yaourt, il n'y a pas trop le même problème, quoi. Donc, on a nous aussi une cuvée sans sulfite, qui est pour l'instant un Cabernet Sauvignon. L'an prochain, ça sera sûrement un Mourvèdre, puisqu'on veut changer le profil du vin. C'est notre entrée de gamme, on le destine à une consommation rapide. Il va très bien, mais je ne vais pas le garder trop longtemps, quoi. C'est pas le but de la cuvée, si vous voulez. Puis on pourrait le garder, mais je pense que ça serait pas bénéfique, donc autant le boire. Oh, non, pour nous, ça fait 3 ans qu'on a cette cuvée sans sulfite. Ça s'est fait un peu tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une année, on s'est retrouvé avec une cuve qu'on n'avait pas sulfitée, parce qu'il n'y avait pas besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à sulfiter en permanence, mais cette année, cette cuve, on ne l'avait pas sulfitée du tout. On s'est dit, ben, on va la laisser comme ça, puisque c'est bien, c'est droit, c'est joli. Donc on l'a mise en bouteille, et puis c'est parti de là, en fait. On a 3 fûts. Ouais, c'est tout petit.
Ouais.
Là aussi, c'est parti d'un coup de tête il y a 3 ans, en 2019. suite au décès de mon grand-père, qui lui était un grand fanat des cuvées. Lui, il aimait beaucoup le Bordeaux boisé. Du coup, c'était un grand débat avec ma mère qui aime pas trop ce qui est sur fût. Donc, juste après son décès, il y a eu les vendanges et ils ont décidé de marquer le coup en achetant deux fûts de chêne. Donc, ils ont fait une première cuvée en 2019 qu'on a nommée Mon Père. Et on a racheté un troisième fût l'an dernier. Donc, petit à petit, on va étoffer notre parc de fûts de chêne pour essayer de travailler parce que c'est quand même un travail intéressant, tant sur la conservation que sur l'aromatique des vins. Et on aime bien faire ça. On a un caveau qui est du coup à Valflaunès, la départementale qui fait de Montpellier à Quissac. C'est un peu, comment dire, une présentation de tout ce qu'on fait au long de l'année, de pourquoi on le fait. Ça nous arrive de les amener à la cave, de les amener à la vigne des fois. Et c'est assez sympa puisqu'on voit qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait et c'est un peu, comment dire, valorisant pour notre travail, quoi.
Nous touchons à la fin de notre reportage sur le territoire du Pic-Saint-Loup et les impacts du climat sur celui-ci. Je tenais à remercier tout particulièrement toutes et tous les acteurs que nous avons pu rencontrer lors de notre petit passage au Pic-Saint-Loup. Victorine Fraisse, vigneronne au domaine de Villeneuve. Christelle Combaluzier, responsable à Invinaterra. Monsieur Pascal Vallée, directeur de l'office du tourisme du Pic-Saint-Loup. Et Clément Nadal, jeune vigneron du château Boissé. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci encore à eux pour leur accueil. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires à leur sujet sur le site grandpicsaintloup-tourisme.fr.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.